Et le patrimoine toujours à l'honneur sur France Bleu Mayenne avec aujourd'hui Jacques Naveau qui nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Archéologue, membre de la Société d'archéologie et d'histoire de la Mayenne. Jacques Naveau, aujourd'hui, on a déjà parlé des menhirs avec vous il y a quelques temps. Aujourd'hui, c'est la stèle gauloise qui nous intéresse. La première question que j'ai envie de vous poser, mais c'est quoi en fait une stèle gauloise ?
Eh bien, c'est ça qu'Obélix portait sur son dos. On dit toujours qu'il porte un menhir, c'est faux parce que les menhirs, ils sont vieux de 4000 ans, 5000 ans. Obélix, lui, gaulois, il vivait il y a 2000 ans. Et il y a 2000 ans, on dressait encore des pierres.
D'accord.
Alors, elles sont différentes des menhirs, dans le sens que les menhirs sont des pierres généralement très grossièrement travaillées, puis parfois de très grande hauteur. Les pierres dont je vous parle, là, sont beaucoup plus soigneusement fignolées. Elles sont polies, elles ont une forme.
Il y a
plus de travail, c'est ça, souvent la forme d'une langue. Elles sont de taille généralement beaucoup plus modeste. Et alors, à quoi ça servait ? Eh bien, là, on a une idée là-dessus, parce qu'il y en a un certain nombre, pas beaucoup, qui ont été trouvés dans leur emplacement d'origine. Et à chaque fois, il s'agit de cimetières. Donc, c'est des pierres qui marquaient des cimetières gaulois. Les Gaulois, donc, avant Jules César, disons, entre le 5e et 1er siècle avant Jésus-Christ.
C'était des sépultures.
Alors, ça marquait l'emplacement du cimetière. Est-ce que ça marquait une sépulture en particulier ? Ça, on ne sait pas. Peut-être que c'était plutôt un peu l'équivalent de la croix du cimetière aujourd'hui. Ça, on ne sait pas exactement. On les trouve quand même toujours en nombre assez limité. Pas forcément toutes seules. Exemple, eh bien, en Mayenne, à Marcillé-la-Ville, où on a un ensemble de 4 stèles qui ont été trouvées ensemble au même endroit, certainement qu'elles se dressaient les unes à côté des autres. Alors, est-ce que ça marquait, par exemple, l'emplacement des tombes d'une famille ? Peut-être, c'est possible. Hein. Ça peut être des choses comme ça. Bon, on ne le saura jamais, mais en tout cas, c'est lié au phénomène funéraire.
Vous disiez tout à l'heure que beaucoup ont déménagé.
Oui, beaucoup ont déménagé, et notamment lors de la christianisation. À la fin de l'Empire romain, ces pierres faisaient encore l'objet de cultes populaires, plus du tout dans leur sens d'origine d'ailleurs, mais certaines faisaient l'objet de cultes qui n'étaient pas très catholiques, c'est qu'à le dire. Et donc, quand le christianisme s'est imposé à partir de Constantin, du 4e siècle...
Ils ont voulu faire place nette.
Voilà, l'Église a essayé de faire disparaître ces croyances populaires et s'est rendu compte que ce n'était pas si facile que ça. Et que si on faisait tomber une idole dans un village, on pouvait provoquer une révolte locale et ça pouvait se passer très mal. Donc le meilleur moyen, c'était plutôt de les christianiser, de récupérer ces pierres et de leur donner un autre sens. Et c'est pour ça que beaucoup de ces pierres, on les trouve à côté d'une église. Elles ont été christianisées. Dans certains cas même, elles ont certainement porté des symboles chrétiens. Un exemple, Désertine. Sur la place du village de Désertine, il y a une pierre. Et quand on arrive au bon moment, c'est-à-dire quand le soleil est bien orienté, en lumière rasante, on voit une croix qui a été gravée au Moyen-Âge sur cette pierre. Et cette pierre est très probablement une stèle gauloise. Elle n'a pas tout à fait la forme habituelle, mais c'est très probablement une stèle gauloise. Donc voilà un exemple de christianisation. Et puis le simple fait qu'on les trouve très, très souvent près des églises. Alors, ça veut dire que c'est des pierres qui étaient dressées à 500 mètres de là, à 3 km de là, et qui, à un moment ou un autre, ont été ramenées. Le curé a dit, allez, ramenez ça là, et puis on va intégrer ça, puisque les gens, ils sont si attachés à cette pierre, eh bien, on va intégrer ça à l'église et à son enclos paroissial.
D'accord. Faute de pouvoir les faire disparaître, on les a fait évoluer.
On les a fait évoluer dans leur sens. Alors, si vous voulez en voir...
Il y en a beaucoup en Mayenne ou pas, hein ?
Il y en a 25 à peu près. Et c'est d'ailleurs un phénomène un peu particulier à la Mayenne, parce que si on va dans les départements voisins, il n'y en a plus. Il n'y en a pas en Ille-et-Vilaine, ou pratiquement pas. Dans l'Orne, il y en a une douteuse. En Sarthe, on commence à en trouver, mais comme par hasard... En limite de la Mayenne. Dans le Maine-et-Loire, j'en connais pas. En Loire-Atlantique, il faut aller dans la région de Guérande. Et puis, alors, après ça, dès qu'on va vers l'ouest, alors là, elles deviennent nombreuses, dans le Finistère, dans l'ouest des Côtes d'Armor. Donc, vous voyez, il y a tout un ensemble armoricain, un vide, et puis en Mayenne, à nouveau, un gros bloc.
D'accord.
Donc, voilà. Pourquoi, ça, j'en sais rien. Mais on en voit. Alors, si vous voulez en voir, allez à Jublin, tiens. Devant l'église de Jublin, il y a la plus belle que je connaisse est dressée à l'entrée de l'église de Jublin. Allez à Alexin, donc, pour voir une pierre qui a été retrouvée dans un champ et qui a été redressée par la commune en bordure de la route Alexin-Mayenne. Enfin, pas en bordure, mais au bord d'un petit chemin. Enfin, il y en a un certain nombre comme ça, à Évron, devant l'abbatiale, une autre devant la mairie.
D'accord, merci beaucoup pour ces révisions donc sur les stèles gauloises qu'on va apprendre à mieux connaître et à reconnaître aussi durant nos promenades. En tout cas, merci beaucoup Jacques Naveau. À très bientôt sur France Bleu Mayenne.
À bientôt.
Au revoir.